Bon, donc on va reprendre pour la partie séminaire hein, de ce cours. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Pichard, qui s'est beaucoup intéressé à ces effets thermoélectriques dans les systèmes mésoscopiques au cours de ces dernières années. Je commence un peu par la fin. Il est en particulier l'animateur, le coordinateur d'un réseau européen qui s'appelle NanoCTM, je crois.
Tu participes, oui,
et qui, il y a à peu près un an, avait organisé une réunion à Cargès qui était, pour une bonne part, consacrée à ces effets thermoélectriques dans les mésoscopiques, où j'ai moi-même appris beaucoup de choses en assistant à cette rencontre. Donc Jean-Louis est un spécialiste des systèmes mésoscopiques et de la physique des conducteurs désordonnés en général, je dirais. Il a fait toute sa carrière au service de physique de l'état condensé, le SPEC, du CEA Saclay, qui est un haut lieu de cette physique, puisque plusieurs groupes expérimentaux également travaillent dans ce domaine au SPEC. Il a beaucoup travaillé sur la localisation d'Anderson, en particulier les statistiques de matrices aléatoires et de matrices de transfert dans les problèmes de localisation. Un peu plus récemment, il a également travaillé sur les effets d'interaction dans ce type de problème, et donc plus récemment encore sur ces effets thermoélectriques que je mentionnais à l'instant. Donc il va nous parler aujourd'hui de conversion thermoélectrique, en particulier dans deux types de systèmes, les nanofils désordonnés et les cavités quantiques chaotiques. Et son séminaire sera en français, le séminaire suivant sera en anglais.
Merci beaucoup Antoine pour l'introduction, et merci aussi pour l'invitation à vous parler de conversion thermoélectrique. Je vais la décrire dans deux types de systèmes, soit les nanofils désordonnés, donc des nanofils de semi-conducteurs dopés, où il y a des effets importants de désordre, et je vais également regarder ce qui se passe dans des cavités quantiques où la dynamique classique est chaotique. Je vais regarder essentiellement ce régime-là dans le régime de basse température qui a été décrit au début du cours, où on peut comprendre la propagation des électrons, parce que la propagation des électrons est à la fois cohérente et élastique. Mais j'aborderai dans la deuxième partie des températures plus élevées où on a des comportements activés. Le point sur lequel je vais me concentrer, c'est l'intérêt de se mettre sur les bords de bande de la bande d'impureté du semi-conducteur, ou c'est les bords du spectre du billard, où je vais m'attacher à décrire les propriétés de conversion thermoélectrique. Dans cet exposé, je vais beaucoup me servir des résultats qui ont été obtenus par Ricardo Bossicio, qui fait sa thèse avec moi au SPEC, et travaux à laquelle participe aussi Geneviève Fleury. Donc, j'ai décomposé comme ceci mon exposé. Je vais d'abord m'intéresser à des systèmes qui sont petits devant la longueur de cohérence de phase. C'est des systèmes où le transport à l'intérieur de l'objet que l'on considère est complètement cohérent et élastique. Et je vais décrire deux types de systèmes, à la fois des nanofils désordonnés et puis des cavités quantiques. Pour rendre l'exposé un peu concret, je vais d'abord m'attacher à vous montrer quelques résultats expérimentaux qui concernent d'abord les nanofils dans ces limites de basse température où on est dans un régime élastique cohérent. Et puis je signalerai brièvement, parce que ça risque d'être fait par la semaine prochaine par Mollenkamp, quelques résultats qui avaient été obtenus aussi pour les cavités quantiques chaotiques. Mais ça vous donnera une idée un peu concrète de ce que l'on veut décrire, et après je montrerai sur des modèles quels sont les résultats théoriques qu'on peut prédire. Je reviendrai après sur les nanofils désordonnés, mais je les regarderai à plus haute température dans un régime où le transport est activé. On a un régime dit de variable entropie, de saut à portée variable de Mott, et donc on peut s'intéresser à la conversion thermoélectrique à ces températures plus élevées, et je regarderai à nouveau ce qui se passe sur les bords de bande de la bande d'impureté du semi-conducteur utilisé. Et enfin, pour finir, je voudrais vous signaler un travail qui m'a intéressé, dû à Philippe Kim, qui décrit la même chose, mais maintenant à température ambiante. Donc on va essentiellement d'abord être aux très basses températures, à des températures intermédiaires, et on va finir à la température ambiante. Alors, pour donner une idée un peu concrète à cet exposé, je voudrais me servir de travaux qui avaient été faits chez nous, C'était la thèse de Wilfried Poirier. C'est une thèse qui avait été faite sous la direction de Marc Sanquer. Et Dominique Mailly avait fait au LPN des échantillons. Alors, vous avez ici une photo qui n'est pas terrible. Où vous voyez quoi? Enfin, on ne voit pas grand-chose cette photo. Vous voyez cette espèce de doigt. Mais ce doigt, c'est simplement une grille. Et puis, vous avez ici des contacts entre une partie gauche et une partie droite. Et en fait, enterré non visible sur cette photo, vous avez un conducteur. Ce conducteur, vous voyez ses dimensions, elles sont indiquées ici, il fait 0,5 micron de long. Et puis, il a une section, quand vous ne mettez pas de tension sur cette grille, qui est de l'ordre de 0,2 micron dans la direction transverse. Ces dimensions peuvent être réduites quand on applique la tension de grille. Donc vous avez un nanophile qui contacte ces deux réservoirs, voilà les réservoirs d'une certaine façon. Et puis ce nanophile, on peut moduler sa densité de façon électrostatique avec une grille. Ce nanophile, dans ce cas, c'était de l'arsenure de gallium qui était dopé avec du silicium, avec 10^23 atomes de silicium par mètre cube comme dopage que vous aviez. Donc vous pouvez. Ce qui a été simplement fait dans cette thèse, c'est simplement de mesurer à basse température la conductance de cet objet et de regarder comment elle varie avec la température, comment elle varie avec la champ magnétique. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que toutes ces données expérimentales avaient été très bien comprises par des théories où on négligeait les interactions entre électrons. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit typiquement quelque chose comme ça. Vous avez ici la conductance de l'objet en fonction de la tension sur la grille qui couvre le petit canal unidimensionnel. Alors, si vous mettez aucune tension, vous avez ici une conductance qui vaut 2E2 sur H. Et puis, quand vous variez la tension, vous variez de façon linéaire cette conductance. Et puis, à une tension de l'ordre de moins 2,5 volts, vous avez vidé complètement le conducteur de ses charges. Et puis là, vous avez pratiquement plus de transport. Alors, c'est peut-être intéressant de regarder ça, non pas à une échelle linéaire, mais à une échelle logarithmique. C'est ce que vous voyez. Vous voyez ici comment ça se passe à l'hélium, à 1 degré et à 35 millika. Et donc, typiquement, vous avez une conductance, on va dire dans notre langage, qu'elle est métallique. Elle est supérieure à 2E2 sur H. Et puis, en dessous d'une certaine tension, vous avez un crossover entre le régime métallique et un régime localisé, où vous avez une chute énorme de la conductance. J'ai noté ici deux points. Le point du crossover entre le comportement d'un conducteur désordonné et le comportement d'un isolant désordonné. Et puis la deuxième flèche indique le bord de la bande d'impureté de ce semi-conducteur qu'on peut atteindre en jouant sur la grille. Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut observer. Alors, dans les figures précédentes que j'ai montrées, on variait la tension de grille avec un pas important. Si vous le variez avec un pas beaucoup plus petit, vous trouvez ces courbes-là. Donc, c'est des fluctuations en échelle log sur plusieurs ordres de grandeur de la conductance. Mesurer ces conductances, c'est très difficile parce qu'évidemment, elles sont très faibles. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que si vous laissez votre échantillon dans le thermostat et que vous recommencez la mesure, elle est parfaitement reproductible. Ces deux courbes ont été déplacées pour qu'on puisse mieux les comparer. Mais en fait, ce que veut dire ces deux courbes, c'est que si vous retracez, si vous variez à nouveau la tension de grille, vous redécrivez cette courbe un peu compliquée. Maintenant, on va regarder ces courbes pour des tensions de grille un peu faibles, de l'ordre de moins 1 volt, où on est dans le régime localisé, mais on est encore loin du bord de bande du semi-conducteur. Et vous voyez ici certaines oscillations. Mais si je me mets, par exemple, à une tension de moins 1 volt, vous voyez que j'ai une fluctuation sur un ordre de grandeur, guère plus. Par contre, si je m'approche du bord de la bande, moins de 5 volts, j'ai des fluctuations de la conductance en fonction de la tension de grille, qui vont être énormes, sur plusieurs ordres de grandeur. Vous voyez, je vais pratiquement sur 10 ordres de grandeur comparé à 2 ordres de grandeur. Alors, je regrette un peu que tu n'aies pas eu le temps, Antoine, de définir ce genre de formule, mais je ne vais pas vous les dériver, elle se sera fait lors du cours suivant. Mais on peut montrer que le coefficient Seebeck est donné par la dérivée du logarithme de la conductance en fonction de l'énergie de Fermi, l'énergie de Fermi étant proportionnelle à cette tension de grille. Donc je vois tout de suite ce que je vais m'attacher à décrire, c'est que je vais avoir ici des valeurs du coefficient Seebeck quand je suis près du bord de bande qui sont infiniment plus grandes que ça, enfin pas infiniment, mais qui sont sensiblement plus grandes que celles que je vais avoir quand je suis plus dans la bande du semi-conducteur. Donc je n'ai pas besoin, enfin, si je crois cette formule, je n'ai pas besoin de faire la mesure. La mesure n'a pas été faite, ce serait intéressant de la faire. C'est quelque chose qui intéresse Olivier Bourgeois, et donc voilà à peu près le genre de choses qu'il voudrait faire maintenant si on voulait mesurer le thermopower de ce nanophile. Donc vous auriez ici un nanophile, vous auriez ici une grille qui permettrait de moduler la densité de porteur dans ce nanophile, et vous le mettriez en contact entre deux réservoirs, et il faudrait chauffer ce réservoir, par exemple en faisant passer un courant ici, de façon par effet Joule, à avoir ici le gaz électronique qui serait à une température supérieure à celle du réseau. Vous auriez ici le gaz électronique qui serait à la température du réseau, ici vous auriez le gaz électronique qui serait à une température supérieure du réseau, et ça vous donnerait un thermovoltage qui pourrait être mesuré aux bornes de ceci. Donc ceci n'a pas été fait, mais néanmoins, si je crois la formule que l'on a vue précédemment, celle-ci, eh bien, ça devrait nous donner une augmentation sensible de la conversion thermoélectrique quand on s'approche des bords de bande du semi-conducteur. Donc c'est ça qu'on a voulu regarder en prenant un modèle vraiment très très simple, qui est simplement qui est décrit ici. Donc c'est le travail de Ricardo et Bossicio avec Geneviève Fleury. C'est un travail que vous pouvez trouver sur CondMath actuellement. Donc on a simplement pris ici un réseau unidimensionnel de N-sites qui est décrit par un modèle d'Anderson. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'Anderson ? C'est que vous avez des sites qui sont aléatoires, avec des énergies de sites aléatoires, epsilon i, qui sont tirés avec une loi rectangulaire de largeur W centrée en zéro. Donc le désordre va être caractérisé par la largeur de la distribution de ces énergies aléatoires. On prend ici des termes de hopping entre sites qui sont uniformes, labellés par cette variable T. Et ceci va nous décrire notre nanophile désordonné. Et on va le mettre en contact avec des réservoirs. On va regarder différents types de réservoirs. On va mettre soit des fils 1D, soit des systèmes 2D, soit des systèmes 3D. Ces réservoirs vont être décrits par une self-énergie qui dépendra évidemment de la dimensionnalité de ces contacts. Et à l'aide de ça, on peut calculer la transmission de la gauche vers la droite à travers cet objet. Maintenant, on va également rajouter à cet Hamiltonien de la partie bleue une grille qui va simplement déplacer les énergies par une quantité que je vais appeler VG, qui va donc, dans ce modèle, modéliser l'effet de la grille. Maintenant, si je crois cette formule, qui sera donc introduite la prochaine fois, et qui suppose différentes choses, donc on suppose que le transport dans cette chaîne désordonnée est élastique et cohérent à l'échelle de cette chaîne. Je suppose, je fais de la théorie de la réponse linéaire, et pour obtenir cette expression-là, on doit également faire des développements de Sommerfeld. Donc il faut que ces développements de Sommerfeld soient justifiés pour arriver à ce résultat final-là. Je reviendrai un peu là-dessus par la suite. Alors à ce moment-là, je vois que pour connaître le Seebeck, j'ai simplement besoin de connaître comment la transmission de mon objet varie en fonction de l'énergie. Je vais regarder un régime, pour simplifier, où la taille de mon système est beaucoup plus grande que la longueur de localisation. Je vous rappelle que quand le potentiel est aléatoire, les états sont localisés sur une échelle qui est labellée par la longueur de localisation xi, et je suppose que mes chaînes sont plus longues que la longueur de localisation. Ce qui correspondait, entre parenthèses, aux expériences que j'ai montrées précédemment de Wilfried Poirier, et Marc Sanquer et Dominique Mailly. Alors à ce moment-là, cette transmission, c'est un objet quand même compliqué qui a de grandes fluctuations. On sait en fait théoriquement que c'est une variable log de la transmission, c'est une variable gaussienne dont la variance est deux fois la moyenne. Donc il faut bien voir qu'on a de grandes fluctuations, mais néanmoins, si je regarde le comportement typique, il est simplement donné par cette expression simple, qui est deux fois la longueur de mon système divisée par la longueur de localisation. Donc si je sais comment la longueur de localisation bouge à fonction de l'énergie, je peux calculer le coefficient Seebeck typique. Et puis après, on verra les fluctuations autour de cette valeur typique. Le thermopower que je vais montrer est donné par cette expression fois T. Une fois que vous avez ceci, pour avoir le vrai thermopower, vous devez remultiplier par ça pour trouver le coefficient Seebeck dans les bonnes unités. Donc, la seule chose dont j'ai besoin dans cette approche, c'est de connaître comment la longueur de localisation bouge avec l'énergie. Alors ça, heureusement, on a des résultats analytiques qui nous donnent ce résultat dans une limite de faible désordre. C'est des calculs de produits de matrices aléatoires dans des limites de faible désordre où on veut calculer l'inverse de la longueur de localisation, un exposant de Lyapunov. Et donc, on a des résultats qui sont faciles à montrer, à la fois quand on est dans la bande de conduction de cette impureté. Donc, j'ai un système unidimensionnel, j'ai une bande qui va en unité de T de moins 2 à plus 2. Ça, c'est la bande 100 mètres de désordre. Quand je mets un peu de désordre, eh bien, cette bande va s'élargir un peu. Et je vais avoir une expression qui va décrire la densité d'état dans la bande que vous trouvez ici. C'est cette courbe en pointillé qui reproduit très bien un calcul numérique qui a été fait pour une valeur de désordre qui n'est pas si faible d'ailleurs. C'était 1, alors qu'a priori, c'est des approches qui sont correctes dans la limite où le désordre tend vers 0. Mais enfin, ça marche très bien, même à W égale 1. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces calculs des longueurs de localisation sont plus compliqués quand on approche des bords de bande. On peut montrer qu'en fait, là, on suppose que l'inverse de la longueur de localisation se développe en puissance analytique du désordre. Et donc, la première contribution est un W carré. Et ce qu'avait compris Bernard Derrida avec Elisabeth Gardner, c'est que quand on s'approche du bord de bande, eh bien, ces termes ont des divergences et il faut ressommer différemment la série. Cette série n'est plus analytique. Et donc, vous avez à la fois une expression de la densité d'état et de la longueur de localisation qui est donnée dans ce travail de Bernard Derrida et Elisabeth Gardner, qui fait intervenir une certaine variable qui vous dit la distance au bord du bande fois ces expressions de l'élément de Hopping et du désordre. Et une fois que vous connaissez ces expressions, eh bien, vous pouvez utiliser ces formules avec ces intégrales pour avoir à fois la densité d'état et la longueur de localisation au voisinage des bords de bande. Alors, sur ces courbes, vous voyez, c'est ces courbes bleues qui décrivent très bien, effectivement, la longueur de localisation sur les bords de la bande, alors que les courbes en pointillés, c'est les expressions de volume que j'ai données ici. Donc, une fois que l'on a ça, on doit être capable de dire comment va se comporter le coefficient Seebeck typique de cette chaîne désordonnée. Alors, maintenant, on va se servir de cette tension de grille pour sonder... Donc là, on va commencer à mettre, par exemple, une énergie de Fermi. Donc ce qui est mis en bleu, c'est la bande d'impureté de ce nanofil désordonné. Ça va de moins 2T à plus 2T. On peut fixer... Là, j'ai pris, par exemple, des contacts bidimensionnels. Je fixe une énergie de Fermi quelque part. Et puis, si je ne mets pas de tension de grille, eh bien, je vais pouvoir sonder les propriétés de transport quand le niveau de Fermi va sonder le milieu de la bande d'impureté du semi-conducteur. Et puis, je vais, en variant cette tension de grille, déplacer cette bande de conduction, d'impureté du semi-conducteur, et commencer à sonder une région un peu plus éloignée du milieu de la bande. Je peux m'approcher du bord de bande. Je peux même éventuellement regarder ce qui se passe quand je vais mettre le niveau de Fermi en dehors de la bande de conduction du nanofil. Donc, ceci va être donc décrit par différentes expressions que l'on peut calculer en utilisant les expressions de la longueur de localisation qu'on a vues précédemment. Donc, dans le volume, voilà comment se comporte le coefficient Seebeck typique de ma chaîne. Vous avez ici une expression qui va décrire comment il se comporte au voisinage du bord de bande. Et enfin, une dernière expression qui va décrire comment ça se comporte qu'on va sonder l'extérieur de la bande de conduction de la chaîne, où ça va être essentiellement une transmission à travers une barrière tunnel qu'on va avoir. Donc, ceci peut être comparé à des résultats numériques, et on voit une description qui est donc très satisfaisante de cette théorie pour le coefficient Seebeck de cette chaîne. Vous voyez qu'essentiellement, en milieu de bande, quand je sonde le milieu de bande, j'ai une symétrie statistique particule-trou, donc nécessairement, je n'ai pas de conversion thermoélectrique typiquement. Vous avez ici une expression qui est décrite par l'expression du volume. Et puis, vous avez ici, après, une forte augmentation de la valeur absolue du coefficient Seebeck quand vous approchez du bord de bande. Ici, le bord de bande est à 2,5, donc vous avez ici un maximum vers 2,3, quelque chose comme ça. Et puis après, vous voyez que l'expression valide en bord de bande devient mauvaise à l'extérieur de la bande et qu'il vaut mieux utiliser la troisième expression qui est donnée ici. J'ai simplement mis ici ce qui se passait quand... Donc ici, on a fixé la tension de grille à zéro et on varie simplement la... Pardon, on a fixé l'énergie de Fermi à zéro et on varie la tension de grille et on regarde ce qui se passe entre 0 et 6. Et puis si j'avais regardé entre 0 et moins 6, j'aurais eu la même courbe avec une symétrie d'inversion, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que c'est évidemment intéressant d'aller sur les bords de bande parce qu'on voit que typiquement, le coefficient thermoélectrique est très, très fortement augmenté. Maintenant, dans ces systèmes-là, il y a beaucoup de fluctuations, donc il faut regarder non seulement le comportement typique, mais il faut regarder même la distribution totale du coefficient Seebeck. Dans la bande, vous aviez une expression qui avait été obtenue par Carlo Benacker et collaborateurs, vous trouvez ceci dans cette référence-là, qui vous montre la distribution lorentzienne ou d'une distribution de Cauchy. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Vous avez simplement besoin de connaître l'espacement des niveaux qui va vous donner ce paramètre lambda, et la distribution du coefficient Seebeck est simplement donnée par cette loi de Cauchy. Il y avait une petite erreur d'une certaine façon qui a été faite dans ce travail-là, qu'on a corrigé, c'est que le centre n'est pas nul, mais il est centré sur la valeur typique que je vous ai décrite précédemment. Mais tant que vous êtes dans la bande, eh bien, les fluctuations sont très bien décrites par cette distribution lorentzienne avec une certaine largeur qui dépend de ce paramètre lambda, qui dépend de l'espacement des niveaux de votre chaîne désordonnée. Et c'est centré autour d'une valeur typique que l'on a vue précédemment. Et ce qu'on constate, c'est que quand on s'approche des bords de bande, on avait une espèce de crossover d'une distribution lorentzienne et une distribution gaussienne. Donc voilà typiquement maintenant des histogrammes du coefficient Seebeck. Quand vous êtes en milieu de bande, ça c'est la distribution lorentzienne avec S0 égale 0, et puis la largeur qui est donnée par ça. Quand vous commencez à vous déplacer vers le bord de bande, la distribution reste lorentzienne, mais avec un S0 qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'elle est légèrement décentrée. Et puis vous avez un changement quand vous approchez du bord de bande vers cette distribution gaussienne qui reste la prévalable quand vous allez à l'extérieur de la bande. Donc il y a un changement de forme de la distribution que l'on observe, que l'on peut quantifier en introduisant un paramètre état. Ça c'est la distribution qui est mesurée, ça c'est le meilleur fit gaussien et ça c'est le meilleur fit lorentzien. Donc si ceci vaut 1, ça veut dire que P de S c'est une distribution de Cauchy, et si ceci vaut 0, ça veut dire que c'est une gaussienne. Et ceci vous indique comment on bascule d'une distribution à l'autre quand on se déplace avec le potentiel de grille du milieu de la bande vers le bord de bande. Et donc ceci vous indique un peu ces changements d'allure des fluctuations. Donc il y a des propriétés de milieu de bande. Ces distributions lorentziennes qui caractérisent le corps de la bande sont intéressantes, parce qu'il y a différents résultats que je vais rapidement mentionner. Si je m'intéresse aux distributions de la conductance, je sais que c'est une distribution log normale avec la moyenne du log, avec la variance du log qui est deux fois sa moyenne. Il y a un autre objet que l'on peut regarder, qui a été regardé dans un travail par Alain Conté et Christophe Tessier, c'est le time delay. Et vous avez ici aussi une distribution universelle, et dans le régime où on voit ces lorentziennes, on retrouve le résultat de Conté et Tessier pour la distribution du time delay. Et puis, vous avez le thermopower qui est aussi donné par une distribution qui est une lorentzienne. Et puis, on s'aperçoit qu'en approchant des bords de bande, eh bien, on a un changement de l'allure de ces distributions d'une lorentzienne vers une gaussienne. Ceci pour dire brièvement que tout ceci repose sur l'idée que le coefficient Seebeck est donné par la dérivée logarithmique de la transmission par rapport à l'énergie. Et pour avoir ceci, il faut faire des développements de Sommerfeld. Maintenant, comme la courbe de la transmission en fonction de l'énergie est très chahutée, ces développements ne sont valables que pour des températures relativement faibles. Alors ceci, c'est aussi associé à la validité de la loi de Wiedemann-Franz, et on peut regarder si la loi de Wiedemann-Franz est obéie pour savoir si on avait le droit de faire ces développements de Sommerfeld ou si, au contraire, il aurait fallu évaluer des rapports d'intégrales qui vont être montrés dans le cours suivant. Et à ce moment-là, on trouve que tant qu'on est à des températures en dessous de ces courbes-là, le développement de Sommerfeld est justifié. Au-delà, il faut faire les calculs d'intégrales qui sont expliqués lors du cours suivant. Et la théorie que l'on a décrite est simplement correcte en dessous de cette température. Si on essaye de donner des ordres de grandeur au cas le pire, qui est donc qu'on approche du bord de bande, on tombe sur des températures de l'ordre d'environ une centaine de millica. Maintenant, comme on s'est intéressé aux distributions du coefficient Seebeck, je voudrais regarder un peu la distribution du coefficient Seebeck, non pas d'un nanophile en régime quantique cohérent, mais la distribution d'une cavité chaotique. Et donc, c'est quelques travaux que vous trouverez dans cette référence. Donc, c'est un travail qui a été fait avec Adèle Abou et également avec Kander Mutalib, un collègue de l'Université de Floride à Gainesville. Alors, pour vous dire un peu le genre d'objet, je voudrais rapidement, parce que ce sera peut-être réexpliqué lors du séminaire de Mollenkamp par la suite, vous montrer simplement cette expérience de Mollenkamp et collaborateurs, où ils avaient regardé le coefficient Seebeck d'une cavité quantique chaotique. Alors là, vous avez un gaz d'électron 2D, et puis vous posez des grilles, ces parties hachurées, et à l'aide de ces grilles, vous formez ici une boîte. Vous pouvez rentrer par un contact quantique ponctuel ici et sortir par un contact quantique ponctuel ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer un courant de ce contact I1 au contact I2. Donc vous allez avoir un chauffage Joule. Et par les interactions électron-électron, les électrons vont se thermaliser de ce côté-là à une température qui va être supérieure à la température des électrons qui seront de l'autre côté. Les électrons ici seront thermalisés à la température du réseau. Ici, ils seront thermalisés à une température supérieure à celle du réseau. Et ça va vous donner un thermovoltage que vous allez pouvoir mesurer entre ces deux. Donc, c'est une mesure qui a été faite pour des dimensions, vous voyez, assez petites. J'ai noté ceci ici. Donc, c'est à peu près des dimensions de l'ordre de 800 nanomètres. Et les températures, c'est aussi une mesure qui a été faite à 50 millica. Et par chauffage Joule, on a ici peut-être une température de 100 millica, alors qu'ici, on a une température de 50 millica. Donc, on a un gradient de température de 50 millica sur une échelle de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. La troisième chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a des paramètres. Quels sont les paramètres qu'on peut bouger ? On peut bouger la tension qui est appliquée sur cette grille-là. Ça va déformer la boîte et on va pouvoir faire une statistique en fonction de la forme de la boîte. Donc, on va faire une statistique en variant la tension appliquée sur cette grille. Et une autre statistique qui est possible, c'est de varier le champ magnétique. Donc ça peut être fait. Et vous observez essentiellement ceci. Alors, vous voyez, là, c'est pour une cavité donnée. On varie le champ magnétique à travers cette cavité. Et vous trouvez que le thermovoltage, typiquement, est nul, mais présente des fluctuations de l'ordre de quelques microvolts autour de cette valeur moyenne nulle. Et maintenant, vous pouvez déplacer la valeur de la grille, donc de déformer un peu la cavité, et vous allez obtenir une autre trace du thermovoltage en fonction du champ magnétique. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des statistiques. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette jolie expérience. Et vous pouvez donc faire des histogrammes du coefficient Seebeck dans la limite où le champ magnétique est faible, dans la limite où le champ magnétique est fort. Donc ici, le système est invariant par renversement du sens du temps. Ici, il ne l'est plus. Ça change les statistiques. Et vous pouvez vous servir de théorie de matrice aléatoire pour décrire ces formes-là, ce qui était des travaux qui avaient été faits autour de Carlo Benacker. Donc, je voudrais un peu reprendre ce problème-là en reprenant maintenant simplement des fils indés. Et puis, je vais mettre au milieu une cavité qui va être décrite par un certain Hamiltonien. Cet Hamiltonien, ça va être une matrice aléatoire. Et je vais choisir la statistique de cette matrice de façon à ce que la statistique de la matrice de scattering associée à ce diffuseur soit donnée par les ensembles circulaires de Dyson, c'est-à-dire soit complètement chaotique. C'est la définition que l'on prend du chaos quantique, du fait que la diffusion est chaotique. Donc, on a une cavité qui est décrite par un Hamiltonien, et puis on a des leads à droite et à gauche qui sont décrits par des self-énergies, qui sont certaines fonctions de l'énergie, qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est d'abord une relation exacte qui permet de calculer la matrice de scattering, c'est une matrice 2 par 2 dans ce cas-là, en fonction de l'hamiltonien que l'on a, et puis des selves d'énergie qui décrivent les leads. Si vous voulez voir comment faire, il y a une bonne référence, c'est de prendre le livre de Data qui explique très bien comment il faut faire. Et ce que l'on voudrait, c'est que la statistique de cette matrice-là soit donnée, ce soit des matrices 2 par 2 prises dans les ensembles circulaires de Dyson. L'hamiltonien ici, c'est une matrice réelle symétrique, je n'ai pas mis de champ magnétique. Donc on veut simplement que la probabilité de trouver la matrice S dans un volume de l'espace matriciel dans lequel elle est définie soit proportionnelle simplement à la mesure de ce volume fois une probabilité qui est constante. Ça veut dire qu'on prend avec la même probabilité toutes les matrices de scattering. Ça correspond aux ensembles circulaires et c'est ça qui est associé à la diffusion chaotique. Alors donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, il y a un certain choix de la statistique de l'hamiltonien qui doit être fait. Et ça correspond à des ensembles de Cauchy avec des paramètres ajustés à la fois pour le centre et la variance de ces ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ensembles de Cauchy? C'est une certaine statistique de cet hamiltonien qui est donnée par cette loi-là. Il y a un exercice assez simple à faire, c'est que si l'hamiltonien est 2 par 2, on peut montrer que si la matrice S est tirée à partir des ensembles circulaires de Dyson, alors la matrice hamiltonienne qui décrit le diffuseur doit être décrite par une distribution de Cauchy avec un centre qui va être donné par la moitié du niveau de Fermi et une largeur qui va être donnée par la partie imaginaire de la self-énergie au niveau de Fermi que j'appelle gamma F. Ceci, c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que ceci implique cela et cela implique ceci. Par contre, si on prend un diffuseur beaucoup plus grand, on peut montrer à ce moment-là que si on prend une distribution de Cauchy pour cet hamiltonien avec ces paramètres-là, alors le scattering est bien chaotique. La distribution de cette matrice-là est donnée, correspond aux ensembles de Dyson. Par contre, on n'a pas pu montrer, et je ne pense que ce n'est pas le cas, de montrer l'implication dans l'autre sens. Maintenant, il y a d'autres travaux qui avaient été faits bien antérieurement par Carlo Benacker et collaborateurs, qui étaient basés sur une relation approximative entre l'hamiltonien et la matrice S que j'ai réindiquée ici. Et vous voyez que comparé à la vraie formule qu'on a utilisée, on néglige dans cette formule les parties réelles des selves-énergies, et surtout on néglige la dépendance en énergie des selves-énergies. Ça correspond à ce qu'on appelle la wideband limit. C'est des concepts qui remontent un peu à la physique Condos, je crois que ça avait été introduit à cette époque-là, mais dans une certaine limite qui va être très bien qu'on va décrire le cœur du spectre du système et qui vont devenir des approximations dangereuses et fausses quand on va s'approcher des bords du spectre, on peut utiliser cette approche. Et donc on peut montrer à ce moment-là que les ensembles circulaires sont obtenus, par exemple en prenant pour la matrice qui décrit cette cavité, un ensemble gaussien dans la limite où la taille de cette matrice tend vers l'infini. Il y avait un autre résultat qui était un vrai tour de force qui avait été obtenu par Brouwer, Fram et Benacker. C'est qu'à ce moment-là, les valeurs propres de la time delay matrice qui sont définies ici sont données par un ensemble de matrices aléatoires qui est l'ensemble des polynômes de Laguerre qui correspondent aux ensembles de Laguerre. Et en utilisant ces résultats, ils ont été capables, c'est donc ce que vous trouvez dans cette référence, de calculer la distribution du coefficient Seebeck dans le cas où vous avez un mode à l'entrée et un mode à la sortie, que la matrice de scattering de cet objet est simplement une matrice 2 par 2. Donc vous tombez sur une expression que je ne vais pas trop détailler, qui est assez compliquée, c'est donné par cette intégrale 4 brute. Et ce qui est difficile à trouver, c'est la distribution des valeurs propres de la time delay matrix qu'ils avaient donc été capables de trouver, qui sont associées aux ensembles de Laguerre. Donc on va regarder un peu ceci dans notre modèle où on prend des diffuseurs lorentziens. On va regarder ça quand on se met en milieu de bande. Voilà le résultat donc de Brouwer, Benacker, Fram, Van Langen et autres. Et voilà ce que l'on obtient quand on prend un petit diffuseur lorentzien de taille 3. Et puis quand on augmente la taille de ce diffuseur, on converge vers le résultat qui avait été trouvé par Benacker et collaborateurs. Maintenant, si vous vous mettez plus proche du bord de bande, par exemple, si vous vous mettez à cette énergie-là et que vous augmentez la taille de la matrice tirée avec les ensembles lorentziens, vous allez retrouver la même chose, mais la convergence va être plus lente. Plus vous vous approchez du bord, plus la convergence va être lente. Donc c'est ce que vous voyez ici, où là vous êtes sur une énergie qui correspond à ici, et là il faut monter sur des tailles de l'ordre de 550 pour commencer à bien approcher le résultat asymptotique qui avait été décrit par Benacker et collaborateurs. Donc maintenant, pour simplement, on peut prendre une autre procédure qui est de fixer la taille de la matrice et d'approcher du bord. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On prend la taille de la matrice et on approche du bord. Et là, on regarde la distribution du thermopower et on s'aperçoit qu'elle tend vers une distribution qu'on est capable de calculer de façon analytique, qui n'a rien à voir avec ce résultat-là. Donc en fait, ou bien on fixe l'énergie, on augmente la taille de la matrice, ou bien on fixe la taille de la matrice et on va vers les bords, et on trouve des résultats sensiblement différents. Alors ça nous a intéressé parce que c'est des choses qui sont connues en théorie des matrices aléatoires, que les distributions sur les bords de spectre peuvent être différentes des distributions au milieu des spectres. Alors c'est quelque chose qui est connu, par exemple, pour les ensembles gaussiens. J'ai repris ici les ensembles gaussiens, et quand vous décrivez les statistiques des niveaux à l'intérieur du spectre, vous avez une statistique qui a été décrite par Wigner, Dyson, Meta. C'est donc, j'ai rappelé le nom d'Auriol Boygas qui avait joué un rôle important pour montrer que dans des cavités chaotiques, c'était bien ces statistiques qu'on observait. Mais dans les années 95, on a compris que quand on s'approchait des bords de spectre, il y avait des distributions différentes qui apparaissent, qui sont dues à Tracy et Widom. Donc, vous avez donc des corrélations différentes, mais vous avez aussi d'autres universalités qui apparaissent si vous utilisez les bonnes variables. Et les bonnes variables, c'est indiqué ici, c'est ce paramètre-là. C'est-à-dire que vous avez ici, ceci vous mesure la distance au bord et ceci vous mesure la taille de la matrice. Et si vous gardez ce terme-là invariant, alors la façon dont la densité d'état converge vers la limite M grand est décrite par une fonction universelle donnée comme ceci. Donc qu'est-ce que j'ai voulu simplement dire ici? Je vais vous dire qu'il y a une statistique avec une certaine universalité en milieu de spectre, il y a une certaine statistique qui apparaît en bord de spectre. Et donc c'est ce que l'on va voir également pour le thermopower, en fait, donc pour le coefficient Seebeck. Donc on a pu convaincre, je ne vais pas expliquer comment, que la bonne variable c'était donnée par une certaine expression qui est donnée par ceci. Et ce qui a été la surprise pour nous, c'est de réaliser qu'on approchait des bords de bande. Ceci, c'est simplement le paramètre qui est utilisé par Tracy et Widom dans les ensembles gaussiens. Et ce qu'on a montré, c'est qu'à ce moment-là, si en même temps que vous augmentiez la taille de la matrice, vous déplaciez l'énergie de façon à ce que cette quantité-là reste invariante, vous tombez sur d'autres distributions qui ne sont pas les distributions obtenues dans le volume par Benacker, qui ne sont pas les distributions de bords de bande qu'on sait calculer définitivement, mais des distributions intermédiaires. Donc voilà, vous avez ici une famille de distributions qui caractérise la statistique des fluctuations du Seebeck en bord de bande de ces cavités. Quand ce paramètre alpha est l'infini, égal à l'infini, ça correspond à la statistique obtenue par Carlo Benacker et collaborateurs. Quand ceci tend vers zéro, on a une expression analytique qui décrit cette statistique. Mais pour n'importe quelle valeur intermédiaire entre 0 et l'infini, eh bien, dans la limite où la taille des matrices tend vers l'infini, mais on se rapproche également du bord de bande de façon à ce que ce paramètre alpha reste le même, à ce moment-là, on tombe sur des familles de distributions. On l'a fait à la fois pour le coefficient Seebeck, on l'a fait également pour le time delay, et on s'aperçoit donc que vous avez une famille de distributions. J'en finis sur cette... cet aspect-là, en résumant, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? J'ai voulu vous montrer qu'on peut s'intéresser aux fluctuations mésoscopiques du coefficient Seebeck de cavité chaotique. Elle présente ces distributions des formes universelles, et ces formes universelles peuvent être bien décrites par la théorie des matrices aléatoires. Et puis il y a des aspects plus curieux qui apparaissent quand vous approchez des bords de bande, où vous trouvez une famille continue de distributions qui sont labellées par un paramètre alpha. Alpha égale l'infini caractérise les distributions dans le corps du spectre. Alpha égale zéro quand ça tend vers le bord du spectre. Et la curiosité de cette étude, c'est que ce paramètre alpha n'est rien d'autre que le paramètre qui apparaît dans les ensembles gaussiens pour décrire les fluctuations sur les bords des ensembles gaussiens. Je ferme là maintenant la partie qui consacrait le régime mésoscopique, où on avait simplement des tailles plus petites que la longueur de cohérence de phase, pour aborder maintenant un régime où la taille du système que je regarde est plus grande que ça, et je vais donc avoir un transport activé. Alors ce transport activé, c'est décrit par des lois dues à Mott, qui vous disent que vous avez donc des états localisés, qui sont, donc ceci c'est en fonction de la distance, et là c'est en fonction de l'énergie. Donc vous propagez dans un ensemble d'états localisés, et vous devez sauter d'un état localisé à un état localisé par un processus activé. Ce processus activé, il est composé d'une partie tunnel où vous devez aller de là à là, puis après il faut trouver l'énergie qui va être donnée par les phonons pour sauter de l'énergie de cet état-là à l'énergie de cet état-là. Donc ça, c'est ce qui va vous donner ces lois bien connues qui sont dues à Mott et qui décrivent le transport en régime de saut à portée variable, variable range hopping, régime en anglais. Donc il y a une certaine longueur qui peut se calculer, je donne ici l'expression qui vaut en dimension 1, qui vous relie cette longueur du saut optimum activé en fonction de la densité et en fonction de la longueur de localisation. Donc, on peut calculer maintenant, on veut calculer la... pour calculer le... On va pouvoir regarder maintenant, donc, dans un autre régime de température, sur un anneau au fil des ordonnées, comment est la conversion thermoélectrique. Donc, dans la première partie, je vous ai simplement décrit cette partie-là, où j'utilisais des développements de Sommerfeld, où le transport était complètement cohérent. Maintenant, quand vous montez la température, vous avez atteint ici cette barrière bleue qui est la longueur du système pour laquelle la longueur de saut de mode devient égale à la longueur du système. Et donc vous passez ici d'un régime élastique cohérent à un régime activé. Et puis cette longueur de mode réduit avec la température et à un moment, cette longueur de mode devient de l'ordre de la longueur de localisation. C'est là où il faut arrêter et vous avez un régime activé simple qui apparaît puisque la fréquence des collisions inélastiques est tellement maintenant importante que vous n'avez pas le temps de voir la localisation. Donc vous avez des températures qui sont données par des expressions qui sont données là. On connaît sur ces modèles 1D comment se comporte la longueur de localisation et la densité d'état et donc on peut vous prédire les températures de crossover en six différents régimes, vous voyez que ça va dépendre de la tension de grille et que vous allez avoir cet effet-là qui va apparaître. Donc, je ne vais peut-être pas trop... je regarde un peu l'heure. Comment il faut faire le calcul dans le régime activé? Mais essentiellement, vous allez calculer des taux de transition intétralocalisés en vous servant d'une règle d'ordre Fermi. Alors, vous voyez... vous regardez la probabilité de transition d'un état localisé d'énergie epsilon i à un autre état localisé qui est distinct de cette distance-là de i, un état en j avec une énergie epsilon j. Et donc pour ça, il faut évidemment que l'état i soit occupé, il faut que l'état j soit vide, ça c'est les distributions de Fermi-Dirac. Et puis après, vous avez besoin d'un photon qui va vous donner, d'un phonon, pardon, qui va vous donner l'énergie qu'il faut pour sauter de l'un à l'autre. Bon, il y a une petite différence entre le fait que c'est de l'émission ou de l'absorption, donc vous avez ce facteur 1 qui va apparaître suivant que epsilon i est plus grand ou plus petit qu'epsilon j. Et puis vous avez une probabilité de transition qui va diminuer exponentiellement avec la longueur, ça c'est dû à la localisation. Et puis vous allez avoir une constante qui sera donc donnée par le couplage électron-phonon de votre système. Donc ça vous permet de déterminer des taux de transition d'état localisé à état localisé qui sont activés. Il y a une petite subtilité. Ceci est expliqué récemment dans des travaux d'Imri. Ça revient à reprendre la théorie de Miller-Abraham, essentiellement, qui avait été développée dans les années 60 pour comprendre le transport activé, mais dans une géométrie à la Landauer. Donc il faut faire attention, là, on est en train de regarder ici quelle est la probabilité de transition des réservoirs vers ces états, et on suppose que ce n'est pas des transitions activées, mais c'est des transitions élastiques qui sont données par une loi différente. Je ne veux peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais une fois que vous avez ces transitions, vous allez bâtir un réseau de résistance aléatoire, un random resistor network en anglais, et les résistances vont être données par l'inverse de ces conductances, et ces conductances vont être données par ces taux de transition que multiplie E2 sur KBT. Donc vous allez comme ça créer un réseau de résistance aléatoire. Il s'agira de calculer la conductance de ce réseau de résistance aléatoire. Maintenant, comme je regarde ceci à une température élevée, je suis quand même assez loin de l'équilibre. Et il y a des petites corrections qui sont des corrections hors équilibre qu'il faut introduire dans le formalisme. L'idée, c'est simplement de définir la probabilité d'occupation de ces états localisés par le potentiel chimique du système, plus une petite fluctuation qu'il va falloir calculer. Donc je vais donner des petites fluctuations au potentiel chimique associées à chacun des états que j'appelle delta mu i. Et puis, une fois que j'aurai ces delta mu i et que j'aurai ces conductances-là, je vais calculer le courant entre ces deux états par cette formule habituelle, par cette loi d'Ohm. Donc, comment avoir ces delta mu i ? Ben, il faut écrire simplement la conservation du courant pour tous les sites. Ça vous donne n équations, vous avez n inconnues, c'est tous les n delta mu i. Et en résolvant ce système d'équations, eh bien, vous allez avoir tous les delta mu i. Une fois que vous allez avoir tous ces delta mu i, vous allez calculer la carte des courants dans ce système-là. Et quand vous avez la carte des courants, vous allez pouvoir calculer le courant électrique qui va, par exemple, de ce réservoir sur n'importe lequel de ces sites. Ça va être le courant total. Vous allez pouvoir calculer le courant de chaleur, vous aurez ce terme-là en plus. Et vous allez pouvoir prendre le rapport de ces deux qui va vous donner le coefficient Peltier de ce système-là. Et en utilisant la relation de Calvin-Osager, vous allez calculer le coefficient Seebeck à partir du coefficient Peltier. Donc ce sont des idées que vous retrouverez dans des papiers récents de Joe Imry, par exemple. Cette référence-là vous explique un petit peu cette méthode que l'on a utilisée. La seule chose que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'utiliser en se mettant proche du bord de bande et non pas en se mettant n'importe où dans la bande. Alors vous voyez bien qu'il va vous arriver des choses intéressantes quand vous allez vous approcher du bord de bande. Parce que quand vous êtes dans la bande, ben vous avez autant d'états au-dessus qu'au-dessous. Ouais. Par contre, quand vous vous approchez du bord de bande, eh bien, vous avez tendance, au contraire, à vouloir absorber des phonons ou émettre des phonons de façon préférentielle, suivant le bord de bande que vous avez. Donc, les calculs qu'a fait Ricardo Bossicio donnent ces résultats-là. C'est des calculs. Je vous montre simplement les comportements typiques. Quand vous êtes en milieu de bande, ben vous trouvez qu'un coefficient Seebeck qui est nul. Ça, en milieu de bande, vous avez une symétrie statistique, donc vous avez statistiquement la symétrie particule-trou dans votre système, donc vous n'avez pas de conversion thermoélectrique. Mais dès que vous vous éloignez du bord de bande, vous faites apparaître de la thermoélectricité, et cette thermoélectricité devient beaucoup plus intéressante encore quand vous vous approchez des bords de bande. Je vous montre ici les comportements critiques, on a également regardé les fluctuations. Je ne vous montre pas ceci, mais juste pour vous montrer qu'il est également possible de faire des choses à des températures plus élevées quand vous avez un régime activé avec l'interaction électron-phonon qui est pris en cours. Il y a une autre interaction qui est importante, qui est l'interaction électron-électron, qui mériterait aussi d'être examinée. C'est probablement possible de le faire également. Maintenant, j'en finis par simplement attirer votre attention sur ce travail qui est apparu en juillet dernier, qui discute à nouveau ces nanophiles. Je reprends le... Je ne sais pas si je l'ai mis... Le terme qu'ils utilisent assez souvent, c'est le fil d'effet transistor device configuration. Donc, c'est des nanophiles avec une grille qui permet de varier la densité. Donc, cette mesure a été faite par Philippe Kim, par un groupe de Columbia, avec des chimistes d'Harvard, Charles Liebert, qui ont fourni les échantillons. Et ils ont fait exactement ce que j'ai discuté à température très basse, mais maintenant à température ambiante. Alors, ils ont mesuré, en fonction de la tension de grille, le coefficient Seebeck de ces fils. Alors, voilà le système qu'ils ont pris. Alors, vous voyez, vous avez des électrodes métalliques. Et puis là, en vert, c'est le nanophile qui vous intéresse. Ce nanophile, c'est du silicium ou du silicium-germanium, ce qu'ils ont regardé. Dopé au bord, je ne sais pas, enfin ils ont mis un certain nombre de dopants, il faudra regarder la publication pour le voir. Et puis vous allez maintenant avoir ici un fil qui va vous chauffer cette partie-là. Puis là ils ont fait, vous voyez, c'est ce qu'indiquait par ceci, ils ont fait des calculs, des simulations avec la méthode des éléments finis pour calculer le profil de température dû à cette petite résistance de chauffage. Et donc, vous voyez que c'est fortement chauffé ici, puis qu'après, la température est estimée comme étant uniforme. Donc, cette partie du fil est un peu plus chaude que celle-ci, et vous allez comme ça pouvoir mesurer un thermovoltage aux bornes de ce fil, Et puis si vous mesurez ici, là, vous allez mesurer la conductance à ces bornes-là. Maintenant, la grille, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble du système, vous voyez, qui est déposé sur quelque chose dont on varie la tension de façon à ce qu'il y ait un effet électrostatique maintenant qui a lieu sur tout le système, qui va être très peu sensible sur ces électrodes métalliques. Vous n'avez pas d'effet de champ dans des métaux. Mais par contre, sur cette partie semi-conductrice, ça va évidemment permettre de sonder ce qui se passe dans la bande d'impureté ou de partir au contraire sur les bords de la bande d'impureté. Et là, vous voyez aussi une belle augmentation du coefficient Seebeck sur les bords de bande. Alors, vous voyez ici, c'est une mesure qui est faite à l'ambiante. Vous avez ici la conductance de cet objet. Donc ici, ben, il conduit. Puis à partir d'ici, vous arrivez sur les bords de bande. Et puis, vous allez partir dans un régime tunnel, quoi. Et puis, bon, ils utilisent une classification qui n'est pas très familière pour ces différents régimes. Mais grosso modo, ce que vous voyez, c'est évidemment une forte augmentation du thermopower d'un facteur 4. Vous allez chercher quand même maintenant des valeurs de l'ordre de, vous voyez, 450 microvolts par degré dans ce cas-là. Voilà, écoutez, je pense que mon temps s'est à peu près écoulé. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je voulais vous décrire de la conversion thermoélectrique dans des nanophiles désordonnés et des cavités chaotiques. Je voulais regarder le comportement typique, je voulais regarder également les fluctuations dans différents régimes, le régime de basse température, le régime mésoscopique, où on peut se servir de résultats théoriques, que ce soit les résultats de Bernard Derrida et Elisabeth Gardner pour les longueurs de localisation, que ce soit des résultats plus théoriques également de matrices aléatoires pour décrire les fluctuations de la cavité chaotique. Je vous ai montré qu'à plus forte température, on pouvait faire des choses en reprenant les théories de Miller-Abraham ou de Ambeaucar, Alperin, Langer, qui décrivent le transport activé. On pourrait sans doute mettre les interactions en réfléchissant aux théories des Frochlovsky également. Et puis, à température ambiante, où tous ces effets ont commencé à disparaître, on voit quand même la persistance de l'intérêt que l'on peut avoir à aller chercher les bords de bande de ces cavités, de ces fils, pour avoir une bonne conversion thermoélectrique. Et donc, c'est ce qui est appelé dans ce papier de Kim et autres, le field effect transistor device configuration. Vous avez un fil et puis vous avez une tension de grille qui vous permet de sonder différentes parties de la bande d'impureté du nanofil. Je vous remercie pour... Thank you.